France Inter. Philippe Bertrand.
Carne Campagne, bonjour. Pour ouvrir cette édition en Indre-et-Loire, nous allons vous conduire vers le plus grand conservatoire de graines et de plantes de moisson, dont le fameux coquelicot qui disparaît progressivement des chemins qui longent ou traversent les grandes zones de culture céréalière à Saint-Laurent-du-Lin. Un passionné de botanique a ouvert un jardin de 25 parcelles au cœur d'un domaine de 11 hectares. Et puis, nous poursuivons le principe des chroniques solidaires avec Jean-Louis Laville, chronique consacrée aujourd'hui à l'entrepreneuriat social. Je vais peut-être enfin comprendre ce que cette formule recouvre.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Dominique Tessier, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Dominique, vous êtes un passionné de botanique, vous avez été un professionnel aussi du paysage, architecte paysagiste.
Oui, c'est ça, oui.
Et alors, vous avez décidé de créer chez vous un conservatoire étrange. C'est le conservatoire de la Société botanique ligérienne. Alors, je dis étrange parce que il est composé, entre autres, de plantes messicoles. Alors, il va falloir donner une explication sur les messicoles du bassin de la Loire.
Eh oui, les messicoles, on peut considérer que c'est une plante compagne des moissons, pour faire simple.
Mmh. Et votre idée est de sauvegarder les dernières espèces?
Ben, c'est sauvegarder les plantes messicoles en général, hein, parce que, comme chacun sait, on ne voit plus maintenant dans les champs que des coquelicots et des bleuets, pratiquement, alors qu'il y en a au moins une centaine, voire 300, selon les inventaires. Donc le but, effectivement, c'est de les sauvegarder, parce qu'elles ont été vraiment mises à mal là depuis de nombreuses décennies, avec les herbicides.
Hein. Ouais. Il y a des espèces végétales qui ont totalement disparu maintenant?
Pour l'instant, non. Il y a des espèces qui ont disparu complètement de certaines régions, mais on les retrouve quand même en France et dans d'autres pays, hein, puisque à l'origine, hein, ce sont des plantes qui venaient du croissant fertile et qui ont été petit à petit transportées avec les céréales depuis des millénaires. Hein. Donc on en retrouve quand même ça et là, mais elles ont disparu en grande partie quand même.
Hein. Ouais. Alors, sur votre propriété de Saint-Laurent-de-Lin, vous avez décidé donc d'ouvrir ce conservatoire. Comment se présente-t-il?
Ben, c'est un terrain qui fait environ 11 hectares. Alors évidemment, on n'a pas 11 hectares de messicoles. Hein. Sur ces 11 hectares qui sont composés de sols très différents, on a réparti environ 25 petites parcelles qui font de 5 à 300 mètres carrés à peu près. Hein. Mmh. Et puis, en fonction de la nature des sols, on a différentes espèces qui s'y développent.
Et ensuite, est-ce que on peut bouturer chez soi? Est-ce qu'on peut utiliser des plantes qu'on va venir chercher chez vous? Est-ce qu'il y a, pas un commerce, mais enfin éventuellement, ou un échange en tout cas?
Oui, oui. Bah, écoutez, ces graines sont diffusées par la CEPAN, c'est-à-dire la Société d'études de protection et d'aménagement de la nature en Touraine.
Oui.
Donc la CEPAN distribue des sachets de graines lorsqu'elle fait des stands en faveur de l'environnement. On distribue aussi des graines chez les agriculteurs qui veulent bien en mettre dans leur culture.
Oui. Pourquoi dit-on qu'aujourd'hui, dans les messicoles, il y a encore de moins en moins, parce qu'on voit du côté des champs, quand même, les coquelicots sont de moins en moins nombreux, mais vous disiez, les deux espèces sont le coquelicot et le bleuet. Pourquoi ont-ils résisté, eux?
Ben, tout simplement parce que ils ont certainement créé des gènes de résistance aux herbicides. Puis il faut avouer qu'ils sont particulièrement coriaces, hein, par rapport à certaines autres plantes messicoles.
Est-ce que votre conservatoire est ouvert au public?
Alors oui, chaque année nous organisons plusieurs sorties botaniques, hein, sur le thème des messicoles. Et ça nous permet de faire découvrir ces plantes à de nombreuses associations et infrastructures en faveur de l'environnement.
Et vous-même, vous sillonnez la région pour retrouver des espèces?
Oui, effectivement, nous sillonnons avec d'autres collègues lors des sorties botaniques. On essaie de récupérer le maximum de graines de messicoles, surtout celles qui sont les plus rares. Alors on arrive encore à en trouver en bordure de champs, dans les coins qui ne sont pas désherbés. Mais bon, ça devient de plus en plus problématique. Puis on a quelques correspondants aussi qui nous communiquent des graines qui viennent d'un petit peu partout dans toute la France.
Est-ce que vous avez obtenu des aides de la région pour ouvrir ce conservatoire ?
Non, il n'y a pas d'aide. Ça s'est fait de façon spontanée avec mon collègue François Beauté, le président de la Société botanique ligérienne. Et l'origine, en fait, c'est une petite plante qui est apparue dans notre potager à Charentilly, qui s'appelle l'orlaïa à grandes fleurs. Et cette plante, on l'a découverte il y a environ 25 ans, et puis on l'a multipliée depuis de façon assez intensive. Il faut savoir que c'est une plante qui n'était présente que dans environ 17 communes d'Indre-et-Loire à la fin du 19e. Et elle a complètement disparu de la région centre depuis quelques années.
Vous allez avoir un lien avec la Société botanique ligérienne. Et puis, je vous invite au beau jour à visiter ce conservatoire de Saint-Laurent-de-Lin avec Dominique Tessier. Merci Dominique.
Merci, à bientôt, au revoir.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
Déjà 25 COP, entendez, 25 conférences des parties, puisque l'acronyme COP correspond à la conférence des parties dans la recherche de solutions face au changement climatique, et il faut l'avouer, quand même peu d'avancée. La 25e conférence qui s'est déroulée en décembre dernier à Madrid a tourné au ridicule, en évitant toutefois la catastrophe, selon tous les observateurs présents. Comme souvent, pour ne pas dire presque toujours, si les solutions internationales peinent à émerger, tentons au moins de les trouver localement. On en revient au colibri, à son rôle des multiplicateurs, une action locale qui engendre d'autres réactions locales, 1+1+1, etc. C'est ainsi que la région Centre-Val-de-Loire a montré l'exemple en une période parallèle au fiasco madrilène, donc c'était en décembre, en organisant, en osant même organiser une COP régionale. Alors c'est la première du genre, mais c'est intéressant. Ainsi, du 9 au 14 décembre, tous les acteurs locaux imaginables ont été convoqués pour répondre aux urgences climatiques et sociales. 41 engagements ont déjà été pris. Au moins, ça c'est du concret. Cela pour résultat un programme, je vous donne quelques illustrations, zéro déchet dans la communauté de communautaire du Haut-Berry, des projets alimentaires de territoire avec Impact Centre, entre parenthèses, Impact désigne le réseau des agricultures alternatives, la réduction aussi, par exemple, des éclairages publics à Bourges, ou l'approvisionnement minimum à 50% en agriculture biologique des espaces de restauration collective dans la région. Si une semaine de rencontre ne suffit pas à bouleverser les habitudes, les pratiques et les comportements, le mouvement impulsé par cette première COP régionale est bien lancé et la mobilisation continue. Vous allez trouver un lien à nos pages d'émission avec cette première COP régionale, la COP Centre-Val-de-Loire. Et avec nous, Jean-Louis Laville, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Une nouvelle chronique solidaire avec vous. Je rappelle que vous êtes professeur au CNAM, titulaire de la chaire d'économie solidaire. On met en lien votre site si on veut avoir la bibliographie actuelle en cours pour avoir des informations. Aujourd'hui, vous proposez de parler de l'entrepreneuriat social. Alors, j'ai trouvé une définition. Et l'entrepreneuriat social est une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général, quel que soit le statut juridique des entreprises, associations, coopératives, SAS, etc., leurs dirigeants font du profit un moyen et non une fin en soi.
Voilà, c'est difficile de pas être d'accord quand on entend cette définition. C'est vrai que l'entrepreneuriat social, on en parle beaucoup ces derniers temps. Faut voir un peu comment c'est venu dans le débat. En fait, il y a d'abord deux écoles. Il y a une école qui est venue des États-Unis, des pays anglo-saxons, et une école qui est venue d'Europe. Dans les pays anglo-saxons, il s'agissait tout d'abord de sensibiliser, dans une période de changement, les associations au fait qu'elles devaient avoir plus de ressources marchandes. Puis ensuite, on a élargi en disant que, effectivement, un peu comme c'est dans la définition, ça pouvait s'appliquer aux associations sans but lucratif, mais ça pouvait s'appliquer aussi à des entreprises qui avaient un but lucratif, mais qui essayaient d'ajouter une finalité sociale. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits pour montrer qu'il fallait adopter des méthodes de gestion issues de l'entreprise privée pour que ces entités soient plus efficaces. Et enfin, on en est arrivé à une approche qui a eu beaucoup d'écho, qui est l'approche du social business, qui en fait retient des entreprises à finalité sociale en considérant qu'elles doivent s'autofinancer sur le marché avec des ressources qui viennent du marché. Et avec aussi un accent mis sur l'entrepreneur social qui, d'une certaine façon, devient un peu le héros des temps postmodernes. Donc, il y a toute cette approche-là qui a été très importante aux États-Unis et puis qui a essaimé un peu dans le monde entier.
Ça sème la confusion, Jean-Louis, si je peux me permettre toutes ces définitions.
Ouais, ça sème un peu la confusion parce que, justement, on voit bien que c'est pas très clair quel est le centre de cette définition. Alors, il y a eu une autre approche en Europe qui va encore rajouter de la confusion d'une certaine façon. L'approche européenne, elle est beaucoup plus centrée sur l'évolution de l'économie sociale. C'est-à-dire que il y avait les associations et les coopératives. Ce qu'a voulu montrer l'approche européenne, c'est entre les associations et les coopératives, il y avait de nouvelles formes qui se développaient, qui étaient un peu un pont entre les deux. Par exemple, à travers des statuts comme celui qui a été adopté en 1991 en Italie, le statut de coopérative de solidarité sociale. C'est-à-dire que les coopératives avant, c'était des coopératives d'agriculteurs, de pêcheurs, de salariés. Et là, on a vu qu'on pouvait organiser une nouvelle forme de coopérative autour d'une multiplicité de parties prenantes, c'est-à-dire à la fois avec des salariés qui peuvent intervenir dans la décision, des usagers, des bénévoles. Une coopérative qui a certains traits de l'association au sens où elle s'intéresse non seulement à l'intérêt mutuel des associés, mais aussi à l'intérêt général.
Ouais. Et encore un peu de confusion, si vous me permettez.
Encore toujours plus de confusion.
Oui, avec la loi Pacte qui désigne aujourd'hui des entreprises à mission qui incorporent dans leur statut une mission sociale ou environnementale.
C'est vrai que ça rajoute encore à cette difficulté de définition. Et c'est quand même aussi, nous on a travaillé avec des chercheuses indiennes et sud-américaines sur ces questions-là. Ce qu'elles nous ont renvoyé aussi, et je crois que ce qu'il faut entendre, c'est oui, il y a des définitions, elles sont multiples, elles sont confuses, on vient de le dire, mais elles sont toutes venues d'Occident. Il y a aussi un certain nombre de problèmes qui sont liés au fait que ça prend pas assez en compte les réalités d'autres pays. Par exemple, elles ont mis en cause le fait qu'il y avait pas suffisamment de place qui était faite aux femmes, alors que la plupart des personnes qui s'investissent dans ce type d'initiative sont des femmes. Et donc, on voit bien que elles parlent même à propos de l'entreprise sociale de néocolonialisme. Donc on voit que l'entrepreneuriat, l'entreprise sociale, c'est très porté dans le débat, mais en même temps, il y a véritablement une difficulté pour savoir de quoi on parle et pour savoir si véritablement on a une approche qui est une approche plurielle, qui est fondée sur une multiplicité d'approches, ou si au contraire on est centré dans une approche qui soit plus anglo-saxonne uniquement.
Donc méfiance.
Méfiance, vigilance.
Vigilance.
Sur qui se prétend entrepreneur social, qui se prétend entreprise sociale. Il y a un débat intéressant, mais la vigilance est de mise, c'est vrai.
Merci Jean-Louis Laville. J'ai une invitation particulière à vous soumettre. Ça me fait penser qu'avec Jean-Louis Laville, on pourrait vous parler aussi, et on le fera certainement, des emplois de la culture. À ce sujet, il existe des groupements d'employeurs culture. Autrement dit, ce sont des structures qui mettent à disposition du personnel, des personnes qualifiées, évidemment, dans ces domaines culturels, mettent à disposition d'employeurs potentiels. En Normandie, près de 160 structures culturelles des filières du spectacle vivant, des musiques actuelles, des ensembles musicaux, des arts visuels, du patrimoine, de l'architecture implantée dans les 5 départements normands vont se retrouver à travers une grande réunion, une grande journée des groupements d'employeurs culture de Normandie. C'est le mardi 14 janvier prochain à partir de 13h30 au Tetris au Havre. 13h30, 14 janvier au Tetris au Havre.